pousser les portes des laboratoires de recherche avec Sciencez-vous, une série de podcasts dans les coulisses de la science.
Rencontrer des scientifiques des universités de Bretagne occidentale et Bretagne sud ou de l'École nationale d'ingénieurs de Brest.
Sociologie,
géographie,
mathématiques,
océanographie,
chimie ou encore robotique.
Sciencez-vous vous fait explorer toutes les sciences pour mieux comprendre le monde qui nous entoure.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, Science et Vous vous emmène à la rencontre d'Ismaël Bailleul. Il est professeur de mathématiques à l'Université de Bretagne Occidentale depuis 2022. Son parcours universitaire l'a emmené jusqu'à la thèse, d'abord à Orsay, puis Ismaël est parti 4 ans en postdoc à Cambridge. Il revient en France en 2011, à Rennes, et avec lui, on discute aujourd'hui de son projet de recherche fondamentale intitulé SMOOTH.
Alors, il s'agit d'un projet de mathématiques fondamentales dont l'objectif n'est pas de produire quelque chose d'utilisable forcément. Son objectif, par les autres j'entends, son objectif premier, c'est de faire discuter deux sous-groupes de mathématiciens et mathématiciennes dont on a observé, avant que le projet se monte, que l'histoire de ces, non pas de ces sous-groupes, mais des domaines de ces sous-groupes, les histoires de chacun de ces domaines s'étaient développées de façon parallèle sur des questionnements relativement proches. Et que ces développements parallèles avaient chacun leur spécificité, mais probablement des choses à partager. Donc l'objet de ce financement ANR sur le projet SMOOTH, c'est exactement de faire en sorte que 5 personnes d'une sous-communauté et 5 personnes d'une autre sous-communauté soient amenées de façon régulière à discuter, à partager des idées, des questionnements, à se rencontrer pour chacun exposer aux autres ce qu'il fait, de façon à ce que à exposer chacune des sous-communautés au développement de ce qui se passe de l'autre côté. Donc ça, c'est l'objectif vraiment premier de l'ANR, indépendamment des questions de mathématiques précises qui sont en jeu. Alors, pour ce qui concerne ces questions mathématiques, elles se situent à l'intérieur des mathématiques, à la confluence de deux champs qui sont d'un côté des probabilités et de l'autre un truc qu'on appelle des équations aux dérivées partielles, acronyme EDP, dont le champ d'application de ce deuxième sous-domaine, les EDP, c'est essentiellement la description de tout ce qu'il y a de dynamique dans un tas de phénomènes naturels. Il faut bien comprendre par là que les mathématiques, c'est un langage pour parler de la nature au sens large. Nature tant la nature de la physique, ce qui a trait à l'humain, ce qui a trait à des choses toutes petites, très grandes, c'est vraiment juste un langage. Et que de la même manière qu'il y a plein de langages humains pour échanger les uns avec les autres, il y a différents sous-langages mathématiques qui chacun ont leur spécificité et leur pertinence pour décrire certains aspects du monde, si je peux dire ainsi. Donc les probabilités et les équations dérivées partielles, les EDP, ont chacun leur champ de pertinence et décrivent des choses un peu différentes, mais qui, dans certaines circonstances, peuvent se recouper. Donc les probabilités, c'est un langage qui est pertinent pour parler de ce que communément on appelle le hasard, et qui, mathématiquement, n'a pas tant trait au hasard qu'à tout ce qui est incertitude. C'est un langage qui est utilisé pour prendre en compte et quantifier, parce qu'on a besoin de quantifier les choses en maths, tout ce qui ressort de ce qu'on ne connaît pas, du moins pour proposer un langage pour parler de choses qu'on ne peut pas mesurer, qu'on ne sait pas mesurer, qu'on pourrait mais qu'on ne va pas mesurer. Dans le même temps, les EDP, donc les équations aux dérivées partielles, elles, historiquement, elles sont apparues pour nous parler de tout ce qui est mouvement de corps. Description des corps dans toute leur diversité, que ce soit un point, un objet plus complexe, les formes des objets. Il s'avère que pour décrire certaines choses, il est bien de parler non seulement de la position d'un point, mais de la vitesse aussi d'un objet, ou des variations de vitesse. Donc dès qu'on veut parler de variation de quelque chose, c'est le langage des équations aux dérivées partielles qu'on utilise. Et des variations, il y en a partout. Dès qu'on veut décrire un objet qui n'est pas un objet idéalisé, qui serait un point, qui ne bougerait pas dans un espace absolu, on a besoin de parler de la variation de la forme, de la position, dans le temps, je ne sais quoi. Donc la classe de problèmes auxquels je m'intéresse, c'est exactement des problèmes pour lesquels on a à la fois l'ingrédient aléatoire, donc qui mesure soit un aléa au sens chance, ou alors un aléa au sens où ça décrit des choses qu'on ne sait pas mesurer ou qu'on ne peut pas mesurer, et un argument dynamique des choses qui changent, des variations. Alors cette classe d'équations qu'on regarde, donc qu'on partage avec les deux sous-communautés dont j'ai parlé, eh bien elle prend ses racines dans des histoires de physique théorique qui sont nées, si je peux dire, autour de 1950. Alors, que je précise les choses, physique théorique, c'est un bout de maths, en fait. La physique théorique, c'est des maths, mais c'est des matheux qui sont motivés en premier lieu et quasiment uniquement par des questionnements fondamentaux du style « voilà ce que les vrais physiciens, ceux qui font des expériences, ont mesuré dans leurs expériences, est-ce qu'on peut expliquer ça avec des principes abstraits ?» Donc le physicien théoricien, il s'occupe de construire un corpus abstrait pour comprendre les choses qui sont mesurées et idéalement les prédire. Alors il s'avère donc que l'histoire du XXe siècle est assez riche en physique théorique et a énormément nourri les mathématiques. À ce sens même qu'on peut dire qu'il y a une bonne partie des maths dont les préoccupations... c'est de ramer derrière ce que les physiciens, théoriciens ont pu faire pour justifier ce qu'ils ont fait. Car à la différence des matheux purs, disons, enfin purs, il n'y a pas du tout de jugement là-dedans, c'est juste les matheux professionnels qui font des maths pour les maths, eh bien, le physicien théoricien, lui, ou la physicienne théoricienne, a le droit, tant que c'est justifié d'un point de vue phénoménologique, de faire parfois des trucs qui n'ont aucun sens mathématiquement, pourvu que, à la fin, si c'est au moins métaphysiquement bien justifié, où il y a des énormes arguments physiques qui justifient la chose, pourvu que donc à la fin, ça redonne des choses en cohérence avec les mesures. C'est les mesures qui sont les vrais objectifs, et on souhaite expliquer les mesures. Donc derrière ça, le matheux ou la matheuse, elle a pour mission, dans certains cas, d'essayer de donner sens à toutes ces choses crapoteuses qui sont faites parfois par les physiciens. Et c'est exactement dans ce genre de préoccupation que un bon nombre des équations qu'on regarde dans le cadre du projet SMOOS sont motivées.
Science et vous, une série de 20 podcasts réalisés en collaboration avec Radio U, Radio Calonne et Radio Balise.
Pour revenir à ce fil de l'histoire de la physique théorique, au début du XXe siècle, il y a eu deux grandes révolutions qui ont été l'invention de la relativité par Einstein, donc qui concerne ce qui se passe à très grande échelle, donc pour l'univers, les galaxies, les choses très très grandes. Donc ça c'est 1904. Et puis une dizaine d'années après, aux alentours de 1920, l'introduction de la physique quantique, qui elle a pour objet ce qui se passe dans les échelles très petites, que ce soit de temps ou d'espace. Et l'une des choses extraordinaires qui est apparue, c'est que les mathématiques dont on a besoin pour décrire le très très grand, donc la relativité, c'est plutôt des mathématiques qui avaient déjà été développées jusqu'à ce moment-là, donc dites classiques, les mathématiques. Et par contre, les mathématiques dont on avait besoin pour décrire ce qui se passe à la toute petite échelle ont été développées sur le pouce, au moment où en physique théorique ça s'agitait. Et c'est quelque chose de très différent de ce qui a été développé pour les choses à grande échelle. Au tout départ, donc vers les 1920, la théorie quantique s'occuper de structures très petites, mais au fur et à mesure que les langages se sont développés, ils se sont aperçus, grâce aux expériences notamment, que ce qu'on croyait au départ être la brique fondamentale de la matière, hein, l'atome, ou les électrons et les neutrons, les positrons, en fait étaient formés de choses encore plus petites. Et ça a été le début d'une course à comprendre ce qui forme les choses qui elles-mêmes étaient censées être fondamentales. C'est ainsi qu'entre les années 30 et 50 a commencé la course à la description des particules fondamentales qui s'est achevée dans l'état actuel, disons, à la fin des années 70. Donc dans cette course, début des années 50, il apparaît dans la description de certaines choses qu'on souhaitait mesurer et qu'on voulait représenter mathématiquement, il apparaît la nécessité de faire face à des calculs qui n'ont totalement aucun sens. Il faut manipuler des trucs, on divise par zéro, on enlève des infinis à droite à gauche. Qu'on comprenne ou pas ce que ça veut dire, on se rappelle qu'on n'a pas le droit de diviser par zéro. Et un infini, mathématiquement, c'est quand même crade. Et cependant, visiblement, les expériences confirment ces opérations totalement loufoques qui sont faites entre-temps, à tel point que la théorie finale qui explique les interactions élémentaires à des prévisions phénoménales avec des précisions extraordinaires, à vraiment des choses quasi parfaites, des prédictions quasi parfaites. Donc cependant, les matheux, très loin derrière ça, donc on était en 1945-50, là, ce que je vous raconte, les manipulations qui sont faites et les équations qui sont manipulées au cours de toutes ces explorations-là n'ont absolument aucun sens mathématiquement. Jusqu'à ce que, j'en arrive enfin à notre histoire, jusqu'à ce qu'il y a une dizaine d'années, il y a un gars, Martin Ayrer, et puis un groupe de trois personnes, Gubinelli, Imkeller et Perkovsky, arrivent concomitamment, à quelques mois d'intervalle, à faire une énorme percée et à introduire des corpus mathématiques nouveaux, des nouveaux mots, des nouveaux énoncés, des nouvelles façons de penser les choses, qui ont enfin permis de donner un sens à un certain nombre des équations qui étaient considérées et manipulées par certaines communautés de physique théorique, et après lesquelles on courait depuis le début. On signifie les mathématiciens et mathématiciennes. Donc il y a 10 ans, il y a eu une énorme percée, une percée théorique, donc l'introduction de nouveaux mots, nouveaux langages. Donc ça, c'est ce domaine-là, c'est exactement le domaine qui concerne l'un des deux sous-groupes de 5 personnes qui sont en jeu dans cet ANR SMOOS. Donc là, on est en 2014, en l'occurrence, avec cette percée théorique sur des équations dérivées partielles stochastiques. Stochastique, c'est un synonyme pour aléatoire. Voilà pour la moitié de notre groupe.
Science et vous, une série de 20 podcasts réalisés en collaboration avec Radio U, Radio Calonne et Radio Balise.
Alors, l'autre moitié de notre ANR, elle, vient de quelque chose, enfin d'un sous-domaine qui de loin paraît exactement le même que celui dont je viens de parler, mais pour lequel il y a tout de même des subtilités et des différences techniques ou même de méthodes. Et c'est un domaine dans lequel, cette fois-ci, on regarde donc des équations aux dérivées partielles, donc des équations qui décrivent les relations que doivent avoir les variations des quantités qui nous intéressent, dans lesquelles il y a aussi un ingrédient aléatoire, mais qui n'entre pas en jeu dans la formulation même de l'équation. Alors imaginons, je vais vous donner un exemple pour être bien concret. Imaginons qu'on ait une étendue d'eau. Et puis, on va, donc cette étendue d'eau, alors c'est pas une grande étendue d'eau, on est dans un contexte de laboratoire, on est dans un bac d'eau, et puis l'expérience va consister à, je vais quelque part donner un petit coup sur mon bac ou sur mon eau, et puis je vais voir comment l'eau elle-même réagit. Bon, ça c'est mon expérience, c'est quelque chose qui se décrit mathématiquement, l'évolution avec le temps du profil d'eau. Le type d'équation qui est intéressé par le deuxième sous-groupe de l'ANR, c'est des équations où ce qui décrit l'évolution de l'eau, ce sont les équations classiques, déterministes. Et par contre, ce qu'il y a d'aléatoire, c'est le choc qu'on va mettre au tout départ, au temps zéro, avant d'observer comment les choses se passent. Il faudrait comparer ça, ce type de situation, à une situation qui serait celle qui concerne l'autre petite communauté dont j'ai parlé, les 5 premiers du groupe, là, pour lesquels la situation correspondante dans ce modèle-là consisterait à avoir une évolution de mon profil d'eau après choc qui soit elle-même sujette à quelque aléa. Okay ? Donc c'est pas la même chose. Dans un cadre, on aurait un choc aléatoire au départ et puis on laisse les choses évoluer de façon déterministe. Ça, c'est la deuxième communauté. La première communauté, elle, ce serait donc dans l'évolution même de mon profil d'eau, j'ai quelque chose d'aléatoire, qui concerne, enfin qui est ici parce que on imagine qu'on a pris en compte avec cette façon de décrire les choses des choses qu'on n'a pas pu quantifier par ailleurs. Vu de très loin, il semble donc qu'on a juste mis le mot aléatoire soit à gauche, soit à droite. On se dit ouais, c'est quoi la différence? Et effectivement, c'est un peu l'objet de notre ANR de finalement nous dire bah en fait. Qu'on ait mis notre mot aléatoire à gauche ou notre mot aléatoire à droite, finalement, il semble qu'on fait quand même des choses qui ont l'air relativement similaires et que les problèmes techniques qu'on avait les uns les autres, qui au départ pouvaient paraître, quand on met vraiment le nez dessus, assez différents, eh ben, ces problèmes techniques partagent des similarités qui seraient bon d'explorer plus que formellement. Donc c'est exactement l'objet de cette ANR que de se dire, donnons-nous les occasions de nous retrouver régulièrement, de discuter de ce que les uns et les autres ont fait à l'intérieur de leur sous-communauté, des problèmes qu'on a regardés, des types de questionnements ou de raisonnements ou d'outils qu'on a mis en jeu pour avancer, pour voir si ça ne consonnerait pas avec des questionnements similaires de l'autre côté. Ça, c'est l'une des choses. Et l'autre façon d'interagir, c'est au contraire de se dire, bah voilà, tiens, on va regarder toi qui es de l'autre communauté, moi qui suis de cette communauté, regardons ensemble tel problème qui va nous intéresser pour une raison ou pour une autre, et attaquons-le tous les deux main dans la main, chacun avec ses automatismes, et partageons ça pour voir si on ne pourrait pas construire des choses nouvelles qui prendraient leur racine des deux côtés du pot de fleurs.
Science et vous, une série de 20 podcasts réalisés en collaboration avec Radio U, Radio Calonne et Radio Balise.
Pour l'instant, ça donne quoi ? On en est où de ce projet-là ? Ça y est, il y a déjà eu des discussions entre ces deux sous-groupes ?
Alors, le projet, il a officiellement commencé en 2023, janvier 2023. Ça fait donc un an et demi. Pour l'instant, on s'est réunis trois fois. Donc les réunions, c'était des réunions de deux jours à chaque coup. Quand je dis réunions, c'est tous ensemble, tous ceux du projet, ainsi que d'autres personnes extérieures dont on s'est dit, bah voilà, ce serait chouette qu'ils viennent partager avec nous leur expérience et puis les agréger comme ça dans la dynamique d'échange qu'on peut avoir. Et puis il y a des débuts de collaboration entre, donc sur des problèmes concrets, entre personnes de ces deux petits morceaux-là d'équipe.
Est-ce que tu as des exemples à nous donner, justement, des collaborations sur ces problèmes concrets qui peuvent peut-être parler un peu à tout le monde ?
Ce qu'on souhaite échanger, c'est en premier lieu nos petits secrets de cuisine, pour voir si ces secrets-là partagent des traits communs. Mais on est tout de même assez rapidement à des niveaux assez poussés de détails, si on peut dire. On n'a pas encore identifié des choses qui seraient plus faciles à communiquer, qui seraient de l'ordre de façon d'aborder les problèmes. Pour le coup, tant d'un côté que de l'autre, chacun des deux sous-domaines est arrivé à un degré de maturité où la façon de penser aux équations qui nous intéressent d'un côté comme de l'autre est relativement figée. Alors figée, ce n'est pas négatif ici, c'est plutôt, elle est relativement robuste. L'état des choses, c'est plutôt qu'on est en train, à ce stade-là, d'aller commencer à gratter dans le au-delà de ce qu'on sait faire avec ces méthodes robustes qu'on a de chaque côté. Donc ça fait partie des d'un des objectifs de cette ANR, à savoir joindre les forces pour aller attaquer des problèmes où pas grand monde a une idée de comment on va faire, en gros. Dans ce type de circonstances, la diversité des réflexes et la diversité des connaissances, c'est un vrai atout. C'est une chose importante là, en maths. Enfin, il y a plusieurs types d'activités, en maths ou pas en maths, à vrai dire. La recherche sur un problème fixé, se dire, voilà, il y a tel problème qui semble pertinent, qui pose des vraies questions, alors soit techniques, soit de détails, mais des détails positifs et importants. Ça, c'est un tic d'activité. Donc, dans le corpus de choses que je connais, je vais les attaquer avec des outils qui sont a priori pertinents. Tel problème. Ok, ça, c'est une chose. Il y a un autre type d'activité qui est très différent, qui consiste à galérer à trouver des bonnes questions. Je vais vous donner une image. On est dans une cave, donc dans la caverne de je ne sais plus quel philosophe latin en l'occurrence. Bon, il y a une grande image. On est dans la caverne, le monde des images. On a notre lampe et autour de nous, ce qui est éclairé, c'est ce qu'on connaît. Et aller chercher un point qui est dans le noir, c'est un truc qui est pas du tout facile parce qu'il faut réussir à trouver un chemin conceptuel. D'abord conceptuel, entre ce qui est éclairé et ce qu'on connaît, cette question-là ou cette chose auquel on aimerait donner sens, et une fois qu'on s'est convaincu que le problème a un sens, d'abord a un sens, est pertinent, Il faut trouver un chemin pour aller de notre zone éclairée à ce point qui est dans l'ombre. Donc ça, pour le coup, ça, j'ai une bonne image pour ça. C'est un truc tout bête. On a des Lego. On a une grosse caisse de Lego avec un tas de Lego qui ont déjà été fabriqués. Et nous, on a une image d'un truc qu'on veut faire, qu'on veut fabriquer, un nouveau bâtiment, un nouveau je sais pas quoi, en Lego. Mais on n'a pas du tout le mode d'emploi. Et le souci avec ça, c'est qu'on ne sait pas si les Lego qu'on a, ils vont suffire à construire ce qu'on veut. Et donc, il y a comme questionnement là, il y a la question de se dire, ah zut, est-ce qu'il va falloir que je me fabrique des Lego, des nouveaux Lego, et lesquels? Et pourquoi il faudrait qu'ils soient comme ci, qu'ils soient comme ça? Et pour comprendre quel Lego il faudrait que je fabrique, si j'en ai vraiment besoin, parce que bien des fois, on peut tomber dans des circonstances où on s'acharne à construire un machin, puis finalement, en fait... En faisant un pas à gauche, puis un pas à droite, en fait, on y arrivait, ou alors il y avait un point de vue différent qui pouvait nous aider. Donc, ce type de questionnement-là, c'est une aventure très différente que l'aventure qui consiste à dire « Voilà, j'ai telle question qui est hyper intéressante, mais je suis persuadé qu'avec tout ce qu'on connaît déjà maintenant, je vais y arriver. » Enfin, quand je dis « je », c'est un jeu collectif. Donc, c'est très différent, ce type de situation, de la situation d'où on prend son sac à dos, et puis on va à l'aventure, et avec toutes les chances de se cogner les dents, et puis de ne pas y arriver, mais c'est ça qui est une partie du fun. Pour revenir à la question de départ, l'une des choses qu'on aimerait bien faire avec ce collectif, c'est aussi précisément de s'aventurer dans des terrains inconnus. Une belle terra incognita, et là, il y en a partout, en fait. Hein. Le corpus des trucs mathématiques dont on dispose actuellement, bah, c'est très grand, parce que c'est très grand à titre individuel, on connaît vraiment très peu de choses. Donc tout nous paraît très grand, c'est une œuvre collective, mais qu'en dépit de ça, ce très grand fait en fait vraiment pas grand-chose par rapport au challenge qui est offert par tout ce qui est de la compréhension de plein de phénomènes naturels.
Science et vous, une série de 20 podcasts réalisés en collaboration avec Radio U, Radio Calonne et Radio Balise.
Pour finir, à moins qu'il y ait aussi des précisions de ta part, mais les prochaines étapes là, du projet, quelles sont-elles?
Alors là, on est un peu en... Donc ça fait un an et demi que le projet est parti. On en a pour 5 ans. Ces 5 ans, c'est 5 ans officiels. Ça va probablement traîner en 6 ans parce que... Donc les montants qu'on a eus sont relativement conséquents. J'ai oublié de le dire, parmi ces montants, donc on a eu quelque chose comme un peu moins de 500 000 euros pour 5 ans, pour 10 personnes, mais dans ces 500 000 euros, en fait, il y en a 300 000 qui sont pour financer des post-doctorats. Des post-doctorats de 2 ans chacun, pour 3 personnes. Une personne va être recrutée à la rentrée qui vient sur un post-doctorat, et ça nous laisse encore 2 postes à pourvoir d'ici la fin. Donc ça, c'est un vrai enjeu que de réussir à recruter des personnes intéressantes et que la collaboration soit intéressante tant pour les personnes recrutées que pour les personnes du groupe. Donc ça, c'est une vraie échéance à venir. Ça, c'est pas fait pour cette année, enfin pour la rentrée prochaine, mais bon, voilà, on continue de chercher pour trouver des bons candidats ou de bonnes candidates. Donc ça, c'est une vraie échéance. La prochaine échéance, au sens où le prochain vrai gros truc à organiser, hormis la recherche, qui est quelque chose de constant, qu'on fait tous les jours, qui est notre activité professionnelle, ça va être l'organisation d'une conf pour conférence, et de cette école d'été que je mentionnais tout à l'heure, donc d'une semaine ou 10 jours de cours. Donc... ça, c'est quelque chose qui demande d'être préparé bien en avance, donc quelque chose comme un an et demi à l'avance, minimum un an, c'est vraiment pas grand-chose. En premier lieu, pour trouver les locaux, les disponibilités, les personnes qui parleront. Enfin bref, ça a l'air tout bête de se dire on va donner un cours pendant une semaine, mais de facto, ça demande quand même beaucoup de préparation en amont. En particulier, si on souhaite profiter de structures qui existent déjà, pour ce genre d'événement, que sont deux endroits en France, un à Paris, à l'IHP, l'Institut Henri Poincaré, et puis à Marseille, le CIRM, qui est un endroit qui est dédié aux conférences et aux écoles d'été de mathématiques, spécifiquement, juste en sortie de Marseille, entre Marseille et Cassis. Donc, c'est des endroits qui accueillent des événements comme ces deux-là, mais pour lesquels les appels à projets, là encore, c'est des candidatures. Ils disent, voilà, pour 2026, probablement dans un mois ou deux, là, on aura un appel. Pour 2026, si vous voulez candidater, envoyez-nous votre projet. Et puis, voilà, il y aura examen des différentes candidatures et certains d'entre eux seront en partie financés. Donc ça, c'est la vraie échéance qui va arriver, parce que l'échéance concrète. Pour ce qui concerne l'échéance d'éventuelles échéances scientifiques, mon image de la caverne de Platon, ça y est, j'ai retrouvé mon philosophe, qui est donc un philosophe romain. Dans la caverne de Platon, on est tous dans le noir, donc on ne sait pas ce qu'on va trouver d'ici quelques semaines, quelques mois. C'est ce qu'il y a de chouette et ce qu'il y a de flippant, possiblement en fonction des caractères. On est vraiment dans le noir, on tâtonne. Et des fois, on tombe dans la boue, des fois, on a un truc qui a l'air plus sympa, des fois, c'est une pépite. Et mais ça, on n'a aucune idée de comment ça va se faire.
Merci beaucoup, Ismaël.
Merci.
Pour aller plus loin sur le sujet de la culture scientifique, Ismaël Bailleul vous conseille vivement les deux séries de 5 podcasts de Cédric Villani sur France Culture.
Poussez les portes des laboratoires de recherche avec Science et vous, une série de podcasts dans les coulisses de la science.
Rencontrer des scientifiques des universités de Bretagne occidentale et Bretagne sud ou de l'École nationale d'ingénieurs de Brest.
Sociologie,
géographie,
mathématiques,
océanographie,
chimie ou encore robotique.
Science et vous fait explorer toutes les sciences pour mieux comprendre le monde qui nous entoure.
Science et vous, une série de 20 podcasts réalisés en collaboration avec Radio U,
Radio Calonne et Radio Balise et avec le soutien financier de l'ANR.